Vous êtes peut-être de ceux qui guettent avec impatience son arrivée dans votre boîte aux lettres. Si vous habitez dans la région de Grand Montana, l'info débarque chez vous 6 fois par an. Pour fabriquer ce magazine de 20 pages, nous sommes une petite équipe de professionnels indépendants. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes ou encore dessinateurs. C'est qu'il en faut du monde pour créer ces 20 pages, que nous souhaitons intéressantes, variées et surtout proches de vous. C'est Sylvie, notre rédactrice en chef, qui veille au bouclement de chaque édition, définit sa ligne rédactionnelle, accompagne sa mise en page, imagine les développements possibles en accord avec les éditeurs et le soutien de toute l'équipe. À peine le journal distribué, tout le monde se remet en piste pour préparer la parution suivante. Sans doute, lorsque vous tenez le magazine entre vos mains et que vous le feuilletez, vous n'imaginez pas tout le travail que cela représente. C'est que, et on a tendance à le sous-estimer, mettre en scène l'information et la rendre accessible, cela a un coût. Autrefois, c'était majoritairement les lecteurs en payant leur journal qui finançaient le travail des rédactions. Mais les temps ont bien changé. Les réseaux sociaux sont passés par là et le gratuit est pratiquement devenu la norme. Comment, dès lors, créer des contenus médiatiques qui répondent à des critères de qualité et qui atteignent leur public? L'info s'inscrit résolument dans son territoire, celui des communes de Grand-Montana, d'Icogne et de Lens. C'est de cela que nous allons parler entre collègues de l'info. Nous allons voir comment concilier information institutionnelle et communication formatrice, comment prendre le train du digital et comment renforcer les liens au sein d'une communauté. Au micro de Pierre-Armand Dusset, retrouvons Sylvie Chevalier, Joël Cherouti et Gratien Cordonnier.
Bonjour les amis,
comment ça va ? Bonjour !
Mes hommages !
Ça va bien ? On est ici à l'atelier créatif, c'est un lieu qui est assez sympathique, qui se trouve à l'arrivée du funiculaire de Grand-Montana. Et puis, on est ici, une partie de l'équipe de l'info, avec Sylvie Chevalier, notre chef, notre rédactrice en chef.
Vous le dites bien.
Qui a une très grande expérience des médias depuis, enfin déjà, elle travaille dans ce domaine-là depuis de très nombreuses années. Tu peux nous parler de ton parcours en quelques mots ?
Mon parcours, mais vous avez du temps. Et puis, tu vois, je suis en train de te vouvoyer, c'est une déformation professionnelle. On a dit qu'on se tutoyait pendant ce podcast.
Tu as commencé à Canal 9, tu as fait un stage RP à Canal 9.
Non, mais dans le métier, moi j'ai commencé au Nouvelliste. Je viens de la presse écrite Canal 9, j'y suis venue par un biais plutôt technique, par la réalisation en fait. Et puis j'ai ensuite travaillé comme bénévole, mais plutôt dans les aspects techniques, et je suis venue à Canal 9 comme journaliste, oui. Alors après je suis partie sur l'Arc Lémanique pour Terre et Nature, pour Edicom qui n'existe plus, c'était le site web de 24 heures Tribune de Genève. Je suis partie à l'étranger, je suis partie du côté de la Force Obscure dans la communication du côté de Genève, où je m'occupais du journal des collaborateurs d'une institution genevoise avant de devenir indépendante il y a une dizaine d'années.
Et l'histoire de Joël est pratiquement Joël Cherouti, est pratiquement
aussi longue. Moi, c'est paléolithique inférieur, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'intérieur de l'Association Serroise de Loisirs et Culture, où je gérais un journal. Et après, je suis entré comme bénévole à Canal 9 en 84, il y a une quarantaine d'années. Après, stage RP du côté du Nouvelliste. Ensuite, un petit renouveau du côté de Canal 9 en tant que rédacteur en chef. Après, un départ du côté du Matin. Ensuite, un peu d'indépendance. Et maintenant, à la rédaction en chef du journal de Sierre.
Et toujours des collaborations avec le journal L'Info, ACCM.
C'est évident, c'est vital et ça fait partie de mon ADN aussi.
Alors, Gratien n'est pas journaliste, je crois.
Non, effectivement. Moi, j'ai fait des études dans la sociologie de la communication. Et c'est vrai que j'ai quand même fait des stages dans le métier du journalisme, notamment au Nouvelliste, dans la locale du Chablais à l'époque. Puis après, un peu comme vous tous, je suis passé aussi par Canal 9, mais en tant que bénévole, avant de commencer dans la communication. Et je n'ai jamais fait, effectivement, mon RP.
Et on ressent chez chacun d'entre vous, pour vous connaître un tout petit peu, un attachement très fort à cette région. C'est le cas ou je me trompe ?
Alors c'est tout à fait le cas pour moi, déjà par ma grand-mère, parce que ma grand-mère travaillait à Grand-Montana pendant de longues années. Et puis Grand-Montana me privait un peu de ma grand-mère les soirs de Noël parce qu'elle restait travailler tard. Travaillait dans une bijouterie du Haut Plateau. Mais ça ne m'empêchait pas d'aimer la région parce qu'on y allait très souvent le dimanche. Alors une fois on allait d'un côté à Caen, une fois on allait de l'autre côté à Montana. Ça dépendait de ses humeurs. Et puis après quand j'ai commencé dans le métier comme stagiaire journaliste au Nouvelliste, je couvrais la région de Grand-Montana.
Et Gratien, tu es un enfant de la région ?
Ah oui, moi je suis né ici, donc c'est difficile.
Cordonnier, hein, je ne l'ai pas précisé au début.
Difficile d'être très objectif là-dessus. C'est vrai que quand on est ici, ben voilà, quoi, on a la chance d'avoir un paysage, un panorama extraordinaire à nos yeux. Mais paradoxalement, parfois, c'est aussi, on ne le remarque pas tout de suite. Quand on vit ici, oui, on trouve ça beau, il y a des gens qui viennent là, mais on ne comprend pas toujours pourquoi. Et des fois, ben, c'est le voyage qui forme, et puis c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ben, on a plus de jours de soleil peut-être qu'à dans d'autres cantons suisses. On a un panorama extraordinaire, et on se dit, oui, effectivement, j'ai de la chance.
Qu'est-ce qui t'a amené par ici, Joël ?
Je suis né à Sierre, monsieur, dans l'ancien hôpital. Et puis ensuite, bah, je suis originaire du Val d'Anniviers, d'un autre côté. Et puis je travaille pour l'info, alors c'est bingo, hein. J'ai tout bon, j'ai coché les trois cases.
Sylvie, quand on a préparé ce podcast audio, tu nous as dit j'aimerais un lieu qui soit en lien avec la région, bien sûr, un établissement. Pourquoi tu as choisi de venir ici, à cet café-atelier créatif ?
Alors c'est une connaissance qui m'a mentionné l'ouverture de ce café, l'atelier Café Créatif, qui est ouvert que depuis le mois de juillet. Et puis on est toujours à l'écoute des personnes à l'info. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'aimais bien le principe, puis j'aime bien parce qu'il y a le mot créatif. Et je trouve que le métier de journaliste, c'est un métier hyper créatif. Et tel qu'on le conçoit à l'info, c'est vraiment notre ligne. Donc je trouvais que c'était le bon endroit pour commencer.
Alors, parlons de notre sujet principal, l'info. C'est un magazine. Décris-moi un peu ce magazine.
Alors, c'est le magazine des communes de Crans-Montana, Icogne et Lens. Ce sont nos éditeurs. Et le deuxième éditeur, c'est Crans-Montana Tourisme et Congrès. C'est le journal des personnes qui vivent à Crans-Montana ou qui y travaillent, qui ont un lien affectif avec la région. Et nous, notre mission, c'est de raconter la vie de cette région, c'est de raconter le quotidien des personnes qui font vivre cette région. On a vraiment une approche communautaire. On est là pour créer du lien, pour valoriser aussi ce qui s'y fait de bien et pour accompagner les grands projets qui sont mis en place par les communes.
Est-ce que je peux peut-être aussi juste rajouter une catégorie de personnes dont tu n'as pas parlé ? Il y a aussi toutes les personnes en résidence secondaire qui ont quand même aussi parfois une forte attache à la région. Ils sont ici régulièrement, ils passent des fois des semaines, voire des mois, suivant les occasions. Et c'est vrai que c'est aussi des gens qui demandent à avoir de l'information locale, à s'impliquer aussi dans cette vie.
C'est très important, donc, puisque c'est une population importante aussi pour l'un de nos éditeurs, CMTC. Absolument. Et que c'est vrai qu'on a des résidences secondaires qui nous demandent de recevoir le journal chez eux.
Joël, tu es rédacteur pour l'info. Comment on s'adresse à ce public-là ?
On s'adresse en l'écoutant et en restituant ce qu'il a à nous confier de la façon la plus sensible et la plus respectueuse possible. On dirait que c'est une base du métier, mais ça me semble tellement évident maintenant. Mais de traduire, moi, quand je dis que je ne suis pas journaliste, je dis que je suis passionneur. Je transmets des choses avec mon filtre, le filtre de ma subjectivité, mais en étant respectueux de la personne qui me confie sa vie, son temps. Et voilà, ça compte énormément pour moi, ça.
Journaliste localier, c'est pas du tout péjoratif.
Ça l'était il y a quelques années. Je me rappelle quand je faisais mes cours à l'école des journalistes, on était des ploucs, hein, on nous regardait parce que les autres étaient au Nouveau Quotidien à l'époque, ils étaient dans plein de journaux qui n'existent plus maintenant, peut-être se poser quelques questions aussi là autour.
Oui.
Mais on était un peu une caste à part. Ceci dit qu'on avait aussi un côté pratique. C'est-à-dire être localier, c'est savoir des choses concrètes et pouvoir les appliquer sur le terrain tout de suite. Quand on est dans d'autres sphères, des fois, je ne suis pas certain que quelqu'un qui est confronté à une avalanche sache où il doit appeler, quel avion il doit prendre ou bien comment il doit faire sa photo.
Oui, c'est quelque chose... le fait d'être localier, c'est quelque chose qui te touche aussi, qui te fait plaisir,
je suis une localière du début. Et ce qui m'a intéressée quand on m'a proposé le mandat de l'info, c'est justement de pouvoir faire du journalisme local, même micro-local, parce qu'on est en proximité. Il y a plusieurs formes de journalisme. Alors c'est vrai, souvent on parle des journalistes politiques, des journalistes de guerre, etc. Et bien sûr, ils ont leur raison d'être, mais le journaliste localier, c'est celui qui fait le lien. c'est celui qui est le premier contact avec une communauté. Et puis en plus, s'il dit des bêtises, je veux dire qu'il le sait immédiatement et il doit faire face aussi. Donc ça demande beaucoup de compétences. Et c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est un aspect hyper curieux. Parce que quand tu vis dans une région, tout le temps, tu es à la recherche d'un sujet et t'en vois partout, tout le temps.
Est-ce que tu considères qu'on a une liberté de ton à l'intérieur de l'info ?
Totalement.
Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale
que je revendique aussi,
que tu travailles ? Tu peux nous en parler ?
Oui, alors, donc les éditeurs, comme je disais, la CCM et CMTC, ils définissent un peu des grands axes, hein, des grands sujets qui sont en cours et que nous présentons, que nous synthétisons, que nous vulgarisons. Ça, c'est une partie de notre mission. Mais ensuite, ils n'interviennent pas. Nous choisissons les interlocuteurs. Nous sommes libres de rédiger. D'ailleurs, ça m'est arrivé, je le dis, hein, de refuser des articles parce que on avait demandé à les relire et un petit peu trop à les retravailler. Tout d'un coup, ils n'entraient plus dans la ligne rédactionnelle. Donc oui, il y a cette liberté-là. Et puis, ce que je trouve très important, c'est qu'on travaille avec que des indépendants. On travaille qu'avec des indépendants. Et donc chacun a aussi son style. Alors oui, il y a une ligne. Il y a des choses sur lesquelles je pinaille, j'embête, c'est clair. Il y a des choses que je n'aime pas. Mais pour le reste, j'aime bien que chacun ait aussi un petit peu sa patte. Parce que c'est ce qui fait aussi la diversité, la richesse de l'info.
Pour nos éditeurs, cette liberté de ton, elle ne pose pas de problème.
Il faut aussi peut-être situer l'info historiquement. Avant l'info, il y avait un journal qui s'appelait Sixième Dimension, qui était aussi un bimestriel et qui a travaillé entre 2005 et 2015 pendant 10 ans. Déjà là, les communes étaient éditrices de ce journal-là, et déjà là, il y avait quand même une grande liberté aussi rédactionnelle, vu que c'était aussi des journalistes qui produisaient ce journal. Au moment de l'annonce de la disparition en 2014, à peu près, je crois qu'ils avaient annoncé la disparition de ce journal-là, il y a eu un travail, effectivement, l'association des communes existait à ce moment-là, de se dire, mais on ne peut pas, après avoir offert quelque chose comme ça à la population, on a senti vraiment dans la population ce besoin d'information. Et c'est là qu'il y a eu tout un travail de réflexion sur un long terme. Et d'ailleurs, je relisais justement le dernier numéro encore ce matin du Sixième Dimension, où l'annonce du prochain magazine était faite. Effectivement, il y a des choses qui ont changé. La forme du est passée en tabloïd. Il y a deux, trois petites choses qui ont changé. Et ce qui était assez marrant, c'est que je lisais encore, ils annonçaient 4 numéros par an à la place de 6. Et finalement, on se retrouve comme à l'époque, aussi avec ces 6 numéros, parce que au cours du temps, on a aussi senti qu'il y avait ce besoin, qu'il y avait trop de choses en fait, à dire pour 4 numéros.
Oui, puis il y a une partie de l'équipe de 6e Dimension qui se retrouve à l'info, Joël, en face de moi, toi aussi Gratien, on a aussi Daniel Embry. On est dans la même lignée que 6e Dimension. Après, nous, on a évolué différemment parce que la société aussi évolue différemment. On a dû traverser la crise du Covid et puis on a aussi récemment développé le site internet. Donc forcément, on change un petit peu.
Comment tu as traversé, Joël, ces différentes périodes, cette évolution de l'info ? Tu es toujours là, il faut croire que ça te plaît.
J'ai énormément de plaisir et ce que je fais au Journal de Sierre est le prolongement de ce plaisir. Ce qui me marque, moi, c'est le côté très affectif qu'ont les gens vis-à-vis d'un média régional. Même si c'est du gratuit qui arrive dans les boîtes aux lettres, je passe mon temps à répondre à des gens qui se plaignent de ne pas l'avoir reçu, justement, dans leur boîte aux lettres. Ça veut dire qu'il y a un intérêt et que la presse écrite, même si on sait que c'est un lectorat qui est quand même soyons gentils, dans la quarantaine, ils ont envie de nous voir sur le papier. Et d'ailleurs, le journal de Cire, lui, est très discret d'un point de vue purement Internet. Il y a juste la version PDF, point barre, et puis les dates de publication. Donc, pour moi, ce que je vis au quotidien à l'intérieur d'une région, je me sens responsable vis-à-vis d'une communauté. Et puis, j'essaye d'être le meilleur des porte-parole. Et le journal de Sierre existe depuis plus de 100 ans, donc j'ai une responsabilité. Je ne veux pas que Walter Shirley vienne me tirer après les cheveux plus tard.
Le journal de Sierre et l'info se fabriquent peut-être un peu différemment. C'est quoi le processus de fabrication d'une édition ?
Alors moi je vais répondre évidemment pour l'info, quoique Joël pourrait répondre aussi puisqu'il y participe aussi. Donc je rencontre régulièrement les éditeurs pour définir justement, on va dire, un peu les grands axes, comme ça, ce qui fait partie des discussions sur le territoire des communes. Et puis ensuite, nous avons des briefings de rédaction, donc avec toute l'équipe de rédaction. Je rappelle qu'on est tous indépendants et que, voilà, nous sommes une rédaction volante, mais néanmoins, on arrive à se retrouver. Et on discute un petit peu des axes qu'on a, dans quelles rubriques ils seraient les plus adaptés. On discute en fait beaucoup entre nous. Et ensuite, je vais distribuer les sujets aux différents rédacteurs. Et là encore, on a des allers-retours constamment. Parce qu'on peut avoir une idée sur un sujet, d'avoir envie de le traiter d'une certaine manière. Puis quand on est sur le terrain, bah, ça ne marche pas tout à fait comme on avait prévu. Donc, il faut qu'on s'adapte. Et c'est ce qui fait aussi, encore une fois, le charme du métier, hein, et plus particulièrement celui de localier. Donc voilà, la production est relativement longue. Parce qu'on lance le journal 2 mois avant sa parution. Donc les rédacteurs ont environ 1 mois pour s'organiser, pour rencontrer les personnes, pour rédiger les articles. Bien sûr, comme nous faisons du journalisme institutionnel, c'est un genre spécifique. Donc nous avons la chance de ne pas avoir de publicité. Nous répondons directement auprès des éditeurs, mais ce n'est pas parce que les éditeurs sont des communes qu'on est obligé de livrer la bonne parole sans avoir notre mot à dire. Nous faisons simplement de l'information positive et constructive. Donc, comme c'est du journalisme institutionnel, tous les articles sont relus par les personnes qui sont interviewées, puisqu'on doit les valider. Puis ensuite, il va y avoir tout un aller-retour, parce qu'évidemment, moi aussi, je les relis tous. Parfois, on les retravaille, ça part en correction. Nous avons encore un correcteur, ça devient très rare dans les rédactions, et malheureusement, ça se voit. Je ne donnerai pas de nom. Et puis, ensuite, ça part à la production, donc c'est la graphiste qui va monter les sujets. Là aussi, il y a une série d'allers-retours, puisque j'ai mon mot à dire aussi sur la mise en page, et après, ben, ça part chez l'imprimeur, il y a la distribution, etc. Donc, c'est assez long comme temps de fabrication.
Mmh. Gratien, c'est donc la CCM qui finance en partie le magazine L'Info. C'est une chance. Comment est-ce qu'on le perçoit, ça?
Oui, c'est une chance et c'était aussi une volonté qu'on avait. Et justement, avant, je parlais du nombre de parutions par année. On est passé de 4 à 6. C'était une demande aussi de notre part. Et c'est vrai que aussi lors du changement de formule, l'idée était aussi de donner la parole aux communes d'un point de vue presque plus, on pensait presque plus au bulletin officiel. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté pas tellement sexy là-dessus et en discussion, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand on a une idée et puis que tout à coup on est confronté à d'autres personnes qui ont d'autres visions, on en discute, et là est née un petit peu cette image, enfin le numéro qu'on a maintenant avec cette maquette avec des pages communales. Et là, c'est vraiment grâce à ce nouveau numéro qu'on s'est dit bon, on va insérer au fait 4 pages supplémentaires, une par commune et une pour la CCM, nos 4 pages. Là, ça nous a donné vraiment plus d'espace pour pouvoir exprimer aussi les différentes choses plus institutionnel, on dira vraiment un peu plus bas au niveau de l'émotion, on est sur des choses un peu plus pragmatiques peut-être. Mais je suis quand même toujours étonné par la manière de rédiger ces articles qui donnent quand même à chaque fois des points de vue quand même humains, qui arrivent souvent, même quand on parle de règlement parfois, à donner la parole aux personnes qui vont défendre ce règlement et qui donnent un visage finalement à l'article.
Aujourd'hui, L'Info a atteint son public, on peut dire ça. On a réfléchi ensemble pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a envisagé la création d'un site web. Est-ce que tu peux nous en parler, Sylvie ?
Longue opération que celle du site web. Oui, ben on a mis 2 ans et demi avant de le construire parce qu'on a eu cette approche aussi justement créative. Puis après, ben, on dépend aussi d'un certain nombre de contraintes puisqu'on est, on est plusieurs intervenants. Ça a un peu ralenti parfois le processus. Mais alors l'idée du site internet, elle était celle-ci, c'était vraiment d'être dans du supplément. Donc quand on a commencé à réfléchir au site internet, c'était en pleine période Covid, parce qu'on ne savait pas si le journal allait continuer à sortir, on ne savait pas si les imprimeries allaient encore fonctionner. Et puis là, on a une discussion avec les éditeurs qui ont eu cette volonté de maintenir le journal du moment que les imprimeries fonctionnaient, pour maintenir justement ce lien, une information quelque chose de positif à la population. Et ça, ça vraiment, moi en tant qu'indépendante, je trouve que c'était un très beau geste. Donc on a aussi joué le jeu, et puis on a dit, ben, comme on ne sait pas si on pourra tout le temps sortir le journal, on va faire des suppléments et qu'on pourra héberger sur une des pages du site internet de la CCM. Comme ça, on aura toujours quelque chose à apporter. Et toute la rédaction, et ça je trouve formidable aussi, elle a joué le jeu. Donc elle a fait ça, elle a fait ce travail en plus. Et notre démarche, c'était, ben voilà, on montre ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, on va plus loin. Et puis on trouvera les budgets, et puis on fera le site internet. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, ben voilà, on a construit ce site avec cette idée. On amène du supplément. Donc, ce qui est important, parce que souvent, on l'oublie, mais dans les articles qui paraissent dans le print et qui ont un supplément web, il y a un QR code à la fin de ces pages qui renvoie directement sur le supplément internet. Et le site, comme ça, permet d'aller plus loin. Nous, notre idée, ce n'est pas de mettre un journal print comme ça sur le web, c'est d'avoir quelque chose en plus. Je prends un exemple concret, tiens, puisque en plus, tu es particulièrement impliqué dans ce sujet. Dans l'édition du mois d'août, il y a eu un article sur Ava, le chatbot de CMTC, donc a priori, pas forcément évident de parler ça d'une manière un petit peu sexy. Véronique Salaman l'a extrêmement bien fait. Et puis, en supplément, il y avait une vidéo que tu as réalisée en allant interviewer Touraj Ebrahimi, qui a son entreprise basée à Rechepper et qui est surtout un grand spécialiste de cette question. Donc ça permettait d'élargir, de développer le sujet. Donc voilà, ça c'est notre approche. Et en même temps, maintenant, le site permet d'apporter du contenu entre les éditions, puisque nous en avons 6, mais en même temps que 6 par an. Et bien, entre ces éditions-là, on peut amener des sujets qu'on appelle des sujets volants, donc ils ne sont pas rattachés directement à un article print.
Ça ouvre des perspectives d'avoir des multimédias qui sont diffusés sur le site. Là, on voit ton matériel qui nous permet d'enregistrer cet audio. Ça t'ouvre des perspectives.
J'ai toujours été un grand défenseur de tout ce qui pouvait relier. Donc, on faut utiliser tous les supports qui sont à notre disposition. Avec la grande chance, c'est que maintenant, ils sont accessibles financièrement et le numérique, enfin tout ce qui est Internet, nous permet de le faire circuler beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc oui, évidemment, bon, plus ça correspond, plus il y a un ping-pong, plus il y a quelque chose d'écrit, et après on peut doubler ça avec une galerie photo, avec un podcast, avec une vidéo, c'est merveilleux. Ça apporte un plus aux gens, ils ont vraiment la totale.
Toi, tu aimerais en faire davantage de ces podcasts, de ces rencontres avec des gens, de ces audios?
J'adore ça. En fait, j'ai toujours été un homme radiophonique refoulé. Donc là, du coup, j'arrive, moi, à m'exprimer plus librement encore. Oui, c'est pour ça que j'ai acheté tout ce matériel, parce que je me suis dit, quand j'ai eu 60 ans, qu'est-ce que j'ai un peu... Je suis passé à côté de la radio, alors je vais en faire. Mais je ne vais pas compter sur d'autres supports que moi-même pour le réaliser. J'ai commencé ça sur un site que j'ai qui s'appelle Valais Surprenant.
La création de multimédia est peut-être un peu plus compliquée techniquement, du moins, que l'écrit. Est-ce que ça risque d'être un frein, de coûter plus cher? Comment tu vois le développement de l'audiovisuel et des multimédias?
Un petit peu comme l'info depuis le début, par étapes. On va y aller par étapes. On va faire avec ce qu'on a. On va tester, voir si ça répond à un besoin, voir si on peut le faire et comment on peut le faire autrement et plus. Là-bas, justement, on est en train de faire un test parce que notre idée, c'est d'aller encore plus à la rencontre des habitants, des résidents de la région de Crans-Montana en les faisant se rencontrer à travers l'audio. Donc non, je ne pense pas que ce soit un frein. Ça demande juste d'être plus créatif, c'est tout.
Gratien.
Non, juste pour dire que c'est vrai qu'avant, j'écoutais vos profils, et puis en connaissant aussi le reste de la rédaction, il y a une expérience, vous avez tous une expérience aussi dans différents médias, dans différents supports. Donc je pense aussi que c'est une richesse extraordinaire que cela apporte, c'est qu'il y a aussi différents points de vue qui s'expriment, il y a différentes manières de le faire, il y a différents supports. Donc je pense que moi, je suis assez aussi optimiste là-dessus, sur le fait que ça va bien se passer, parce qu'il y a ces différents profils.
Mais les langages évoluent, les gens consomment l'information de façon différente. Est-ce que c'est un passage obligé ou on le fait aussi parce qu'on a du plaisir?
Parce qu'on a du plaisir aussi, bien sûr.
Dès que c'est obligé, ça va pas.
Non, sincèrement, on s'ouvre certaines perspectives en ayant cette approche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais je plaisante, mais c'est clair que ce qui m'intéresse aussi, alors ça c'est une idée qui me tient à cœur depuis 25 ans, quand j'étais partie sur l'Arc Lémanique pour travailler dans les rédactions web de 24 heures Tribune de Genève, c'était justement d'utiliser chaque média en fonction de sa spécificité pour utiliser le bon média pour la bonne information. Il y a des informations qui passent mieux en écrit, il y en a d'autres mieux en audio, d'autres mieux en vidéo, etc. Et c'était ça qui m'intéressait, on dispatche puis on utilise le média. Bon, 25 ans plus tard, on y arrive quand même, justement grâce à l'info. Et peut-être qu'on y arrive parce qu'on n'avait pas justement toute l'organisation et toutes ces pressions qu'on a dans les rédactions classiques. Donc on a dû aller chercher autre chose autrement, et comme l'a très bien souligné aussi Gratien, on est une équipe avec des profils très variés. Je parlais tout à l'heure aussi de la fabrication du journal, les journalistes occupent des pages rédactionnelles, les personnes qui sont rattachées à la communication, plus spécifiquement des pages communales. Et ça aussi, ce sont des distinctions qui permettent un traitement plus riche.
Oui, Joël.
Il y a un élément, j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance, mais le papier est fragile. Moi, je parle pour le journal de Sierre. Le journal de Sierre ne vit que par la publicité. Il n'y a plus de pub, il n'y a plus de journal. Donc, à partir de là, il faut aussi savoir se diversifier dans ses moyens de communication, et on peut se rattraper du côté du numérique, justement.
Mais est-ce que ça ne nous oblige pas à aller vers plus de synthèse, vers des formats plus courts, vers des formats TikTok plus rapides ? Est-ce qu'on a sincèrement envie d'aller dans cette direction ? Au contraire, on a la possibilité de parler sur des formats différents.
Il y a un peu tout et son contraire à l'intérieur des formats qu'on nous propose. Il y a des formats qui existent sur Internet qui sont des très longs formats au niveau d'articles, qui font des pages et des pages, et qui sont complétés par des vidéos, par des podcasts et autres. Et c'était le New York Times qui avait commencé ça. Ils se sont rendus compte que ça marchait du tonnerre de Dieu. Alors tout le monde leur disait, c'est long, ça ne va jamais être lu. Donc il faut se méfier de toutes les formes de calibrage qu'on nous posait. Je crois que l'important, c'est ce qu'on a à faire passer. Et si le message, il est sur tant de minutes, et ben il sera sur tant de minutes, et puis s'il doit être plus synthétique, il sera plus synthétique, mais on doit s'adapter au format, pas suivre des modes à l'intérieur de tout ça. Je m'en méfie, mais comme de la peste.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël, et on voit aussi avec le podcast, hein, c'est de s'intéresser, c'est quoi la bonne durée d'un podcast. Il y a toutes les durées possibles et inimaginables aussi, puis on le voit aussi en vidéo ou plus largement au cinéma. On voit combien de films sont longs actuellement. On revient à des durées longues. Donc, c'est pas la durée qui est importante. C'est à qui on s'adresse, et qu'est-ce qu'on veut le dire et comment on va le dire.
Et pourtant, quand on parle de la jeunesse qui est sur le présent, sur les communes de Grand-Montana, on voit qu'elles sont... J'ai une nièce qui est adolescente et qui adore les TikTok et les formats ultra courts. Comment est-ce qu'on va réussir à leur parler ?
On va essayer déjà de leur parler grâce à l'info. On a déjà commencé d'ailleurs.
Où est-ce que c'est peine perdue ?
Non, ce n'est jamais peine perdue, même si des fois on a envie d'enjamber la rambarde du balcon. Mais non, mais finalement, ce sont des outils, mais la communication, elle reste la même. Ce sont des modes aussi. Un temps, c'est tel réseau. Un moment après, c'est un autre réseau, etc., etc. Encore une fois, moi, je pense que c'est qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, comment on veut le dire. Évidemment, les jeunes, en plus c'est un a priori que j'ai, parce que c'est pas vrai, il y a des jeunes qui sont très intéressés par la presse écrite et qui lisent les journaux, mais si je reviens à mon âge, à part le fait que j'ai commencé quand même tôt dans le métier, moi je n'étais pas tellement adepte non plus des journaux, hein. J'avais d'autres moyens de communication, donc il y a aussi un temps pour tout. Et puis je vais revenir justement, comment est-ce qu'on s'adresse aux jeunes. Nous on essaye aussi à travers l'info de les intéresser à ce qu'on fait. On a évoqué aussi tout à l'heure Canal 9. Quand Canal 9 a démarré, il y avait vraiment cette idée aussi de fabrique, hein, du média, d'être la place du village, de l'expérimentation. Bon, maintenant, Canal 9 est devenu une chaîne comme une autre chaîne. Et l'info, nous, on a vraiment cet aspect un petit peu atypique. On fonctionne comme une rédaction. mais en même temps on fait du journalisme institutionnel, on dépend des communes, et puis là avec le site internet on essaye d'ouvrir, on a mené des expériences avec les élèves du cycle d'orientation l'année dernière qui ont rédigé un article, ça nous a permis aussi de leur présenter le métier de journaliste et de les sensibiliser à ces spécificités, et on recommence cette année, et là on va passer justement avec un podcast pour changer de média. Donc on a aussi cette idée pas seulement fédérative et de créer des fédératrices et de créer des liens, mais aussi d'accompagner une communauté, et puis cette volonté aussi de former, de sensibiliser.
Gracia, on a parlé de la fabrication des multimédias, du public aussi qu'on peut toucher avec ces multimédias. On a aussi toute une partie de notre travail qui est consacrée à la diffusion sur Internet et par le biais des réseaux sociaux. Vers quoi on veut aller en publiant ces médias sur Internet et les réseaux sociaux ?
Le but, c'est effectivement de toucher un public varié. Je crois que là, on l'a dit, en multipliant aussi les formats, on a peut-être aussi plus de chances de toucher un public, parce qu'on a entendu, comme Sylvie, tu l'as dit, il n'y a pas les jeunes. Il y a des jeunes, peut-être qui ont moins de temps pour la lecture, mais il y a certains qui, effectivement, se plongeront quand même volontiers dans de la lecture, que ce soit de presse ou de livre. Il y a des jeunes qui aiment la vidéo. Il y a des personnes d'un certain âge qui aiment la vidéo. En multipliant ces plateformes, mais en ne faisant pas non plus trop de tout, je pense que c'est à chaque fois des petits points d'entrée qu'on va essayer de faire. Et c'est aussi des points d'entrée qui permettent de toucher différents publics dans les médias sociaux. Et là, les réseaux sociaux, c'est un futur défi. C'est aussi savoir lesquels fonctionnent, lesquels vont toucher quel public et comment est-ce qu'on va les chercher. Est-ce qu'un podcast, je vais le mettre sur ce réseau social ou celui-là pour le chercher ? YouTube, on a une chaîne YouTube de la CCM sur laquelle il y a aussi toute une playlist de toutes les vidéos de l'info. C'est d'une richesse et ça donne même un côté historique parce qu'on peut se replonger dans les anciennes vidéos qu'on a déjà faites. On a une richesse qui est en train de se créer et je pense que c'est aussi comme ça. Petit à petit, en faisant venir les gens, leur faisant découvrir tout ce qui existe, qui vont venir et qui vont s'intéresser aussi à ça.
Voilà, ce podcast touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette discussion à bâton rompu. Et quant à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver d'autres contenus multimédia ainsi que nos articles sur l'info.ch, l-info.ch. Merci et à bientôt.